Salut, moi c'est Zoé, je suis en deuxième année en sciences politiques, économie et développement international. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier épisode de Conversation Candide, le podcast de Catalyst, le journal de développement international de McGill.
Je suis Shana, étudiante en première année en économie et développement international. Je suis ravie d'être co-hôte aujourd'hui avec toi Zoé pour notre podcast Population en transition, défis et opportunités, le premier épisode du semestre d'hiver 2024.
Lors d'une conférence de presse, le 16 janvier 2024, le président français Emmanuel Macron a dévoilé des mesures pour relancer la natalité française en berne. En employant l'expression de réarmement démographique, il a engendré de nombreux débats dans l'espace public français. En effet, en 2023, seulement 678 000 bébés sont nés dans le pays, soit une baisse d'environ 7% par rapport à l'année 2022. Ce chiffre constitue le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron s'est alors inquiété de l'apparente progression de l'infertilité et a proposé un grand plan afin de stimuler la natalité française. D'après Elsa Conessa, une journaliste spécialiste des politiques économiques du journal Le Monde, le terme réarmement démographique n'est pas neutre et a suscité de nombreuses polémiques. La natalité a toujours été liée à la guerre. Plus d'enfants, plus de soldats. Le fait que la natalité française décline inquiète alors les Français. Nous pouvons alors nous demander si une natalité décroissante signifie nécessairement une baisse de la croissance économique.
D'un côté, ce lien paraît évident. Moins de naissances signifie moins de travailleurs et donc la baisse de la croissance économique en général. Il y a également la question du financement de la protection sociale. Si la population décline, qui va contribuer pour nos retraites? Cependant, la corrélation entre naissance et croissance économique n'a pas encore été prouvée. Des contre-exemples comme l'Allemagne ou le Japon démontrent qu'une baisse de la population ne signifie pas forcément une baisse de la croissance économique. Des facteurs extérieurs doivent être également pris en compte.
Cependant, bien qu'aujourd'hui la natalité n'a pas nécessairement un enjeu militaire, l'idée qu'une forte natalité est un facteur de puissance reste toujours bien ancrée dans les consciences. Par exemple, en avril 2023, un rapport de l'ONU a confirmé qu'un changement démographique majeur a eu lieu. La population de l'Inde a dépassé celle de la Chine.
Exactement. Plus précisément, le 12 avril 2023, avec 1,43 milliard d'habitants, l'Inde a surpassé la population chinoise. Il faut dire que ces deux pays constituent quand même un tiers des 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Zoé, je ne sais pas comment tu as réagi, mais personnellement, ça m'a quand même fait quelque chose. Je me rappelle il y a un an, quand je lisais les articles partout à l'école, dans les médias, la Chine avait toujours détenu ce rôle de reine démographique. Mais on peut dire qu'elle s'est clairement faite détrôner. C'était un vrai renversement dans la tendance géopolitique, et je me posais surtout des questions sur ce qui allait changer. Comment l'Inde a-t-elle devancé la Chine?
Une des explications peut être que l'Inde a une population beaucoup plus jeune et par conséquent un taux de fécondité plus élevé. Mais l'Inde a surtout connu une baisse de la mortalité infantile au cours des trois dernières décennies. Dudley Poston Jr., un professeur émérite de sociologie à l'Université du Texas, a expliqué que la Chine a désormais rejoint de nombreux pays européens, comme la France dont je parlais plus tôt, qui enregistrent plus de décès que de naissances chaque année. Mais alors, on peut se demander, existe-t-il d'autres conséquences que démographiques?
L'enjeu n'est pas seulement de se vanter de savoir quel est le pays le plus peuplé du monde. Il y a de vraies conséquences géopolitiques, mais surtout, cela provoque une perturbation dans l'équilibre déjà précaire de la région. L'Inde, qui explose démographiquement, crée des nouvelles opportunités économiques, mais ça intensifie aussi la compétition avec la Chine pour les ressources et les investissements. Et puis ça chamboule les alliances. Certains pays se rapprochent de l'Inde pour contrebalancer la Chine, tandis que d'autres jonglent entre les deux. En fait, ce qu'expliquait le chercheur britannique Stuart Gittelbasten au journal de la presse, ça m'a vraiment impacté. Il montrait que finalement, il y a des enjeux supérieurs que seulement démographiques. Psychologiquement, ce sera difficile pour la Chine, surtout compte tenu de la rivalité dans d'autres domaines entre les deux pays. Il disait aussi que c'était un grand moment dans l'histoire de l'humanité, que le relais passe maintenant à l'Inde. Beaucoup diront qu'une population jeune est un atout pour une économie qui se développe. On peut alors se demander si dans ces pays en développement, avoir une population jeune est bénéfique ou non.
Effectivement, dans certains pays en développement, notamment au Moyen-Orient et dans le nord de l'Afrique, on a pu observer une baisse des taux de mortalité associée à des taux de fécondité élevés entre 1950 et 2010. Ainsi, une véritable explosion démographique des jeunes a eu lieu. L'augmentation d'une population jeune peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Au premier abord, on pense aux effets positifs. L'augmentation de la population jeune permet davantage de main-d'œuvre et peut ainsi stimuler la productivité nationale. En réalité, le marché du travail de ces pays en développement n'est pas prêt à accueillir ces populations. Les jeunes qui ont un niveau d'éducation plus élevé que les générations précédentes se retrouvent sans emploi car le marché ne peut absorber autant de nouveaux arrivants. Par conséquent, on observe alors un taux de chômage élevé et le défi de nombreuses attentes non satisfaites pour les gouvernements. Comment réagissent-ils ?
La question des politiques gouvernementales est cruciale dans la gestion des dynamiques démographiques. Chaque gouvernement a des objectifs différents. Les pays ont mis en place des mesures pour encourager la natalité, tandis que d'autres ont adopté des politiques visant à limiter les naissances. Tu connais sûrement la politique de l'enfant unique adoptée par la Chine en 1979.
Oui, cette politique a été assouplie en 2015 pour permettre à certains couples d'avoir deux enfants. Mais elle a quand même laissé des séquelles sur le déséquilibre démographique actuel, comme tu le soulignais plus tôt. D'autres pays, comme l'Indonésie dans les années 1970, ont également tenté de limiter les naissances par le biais de politiques de planification familiale et de campagnes de sensibilisation à la contraception.
En ce qui concerne les initiatives pour stimuler les naissances, la France, par exemple, a mis en place des mesures telles que des allocations familiales généreuses ou des aides à la garde d'enfants. Ces politiques visent à réduire le fardeau financier et logistique associé à l'éducation des enfants, espérant ainsi encourager les couples à avoir plus d'enfants. Ces différentes approches reflètent clairement les préoccupations et les priorités spécifiques de chaque pays en matière de démographie, de développement économique et social.
Alors, en parlant de démographie, on évoque également des variétés de familles et de cultures. La complexité des dynamiques démographiques actuelles réside dans le fait que certaines populations augmentent, d'autres stagnent ou encore déclinent. Chaque gouvernement cherche à répondre aux défis uniques posés par sa propre situation démographique. La politique de l'enfant unique en Chine aux mesures incitatives à la parentalité en France. Néanmoins, malgré leurs efforts, les gouvernements ont un contrôle limité sur leur croissance démographique respective et l'individu a toujours un choix.
Il est clair que la démographie n'est pas simplement une question de données, mais aussi une question de valeurs, de politique et de vision pour l'avenir. En fin de compte, la manière dont nous gérons nos défis démographiques aujourd'hui façonnera le monde de demain. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, Catalyst continue d'être le lieu où les idées se rencontrent, où les perspectives se croisent et où les solutions émergent. Car c'est ensemble, en tant que catalyseurs du changement, que nous pouvons façonner un monde plus inclusif, plus équitable et plus résilient.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn à @catalystmcgill. Et si vous désirez plus de contenu de ce genre, visitez notre site internet afin de lire des articles sur catalystmcgill.com. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.